Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Ce soir, nous accueillons Victor Beizon Michelin, travaillant à Emmaüs Connect. Bonjour à toi, Victor.
Bonjour.
Au programme de l'émission, on fera l'électronisme et la fracture du numérique en France. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, comment s'organise Emmaüs Connect dans la lutte contre l'exclusion numérique ?
Déjà, merci de m'avoir invité. C'est chouette de pouvoir faire une radio et d'avoir un peu le temps de développer sur nos activités, sur l'électronisme, etc. Alors, je vais répondre à ta question, mais en commençant peut-être un peu par le début, quoi, pour expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'est Emmaüs Connect.
Ouais.
Donc, Emmaüs Connect, c'est une association du mouvement Emmaüs. Probablement que la plupart des gens voient de quoi je parle, mais pour ceux qui ne verraient pas, c'est un mouvement qui a été créé par l'abbé Pierre. Il y a de ça un peu plus de 70 ans. On fêtait les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre cette année, mais c'est, le mouvement est encore plus vieux. Pour ceux qui ne voient pas qui est l'abbé Pierre, c'est ce monsieur avec un béret et une canne qui disait qu'il fallait faire en sorte que tout un chacun puisse avoir être digne et avoir les moyens de s'émanciper, de s'en sortir dans la société, qui a créé toutes les communautés d'Emmaüs, qui disaient qu'il fallait s'indigner contre la pauvreté. C'est la fameuse insurrection de la bonté de l'abbé Pierre. Et donc nous, on est une association qui est membre de ce mouvement, qui a été créé en 2013 au sein d'une autre association d'Emmaüs Connect, qui s'appelle Emmaüs Défi. Donc de 2010 à 2013, on a été un petit projet. Et on est né d'un constat, en 2010-2013, de se dire ben, il y a un nouveau pôle de dépenses incompressible. Pour ceux qui voient la pyramide de Maslow, il y a se nourrir, se loger. On a eu se connecter. Faire en sorte de pouvoir discuter avec ses proches, de pouvoir avoir accès à Internet, avoir de la téléphonie. Et partant de ce constat, on s'est dit, pour des personnes en situation de précarité, il faut qu'on trouve des solutions pour qu'ils aient les moyens de faire ça. Il faut se remettre en 2010. Free Mobile n'a pas encore cassé le marché de la téléphonie et donc on est à des forfaits qui vont qui sont à 50 voire 80 euros pour appel SMS illimité, donc 50-80 euros en 2010, il faut se rendre compte de ce que c'est. Aujourd'hui personne paierait ça pour un forfait, mais alors en 2010 c'est encore pire. Et donc il a fallu qu'on trouve des solutions. Donc on s'est rapproché à l'époque d'un opérateur de téléphonie mobile qui s'appelle SFR, qui nous a donné à l'époque, mais nous donne encore aujourd'hui, des cartes SIM et des recharges prépayées gratuitement, que nous on a pu dès lors revendre à tarifs très solidaires à des personnes précaires. Et donc on est né de ça, et depuis 2013 on propose de la connexion à tarifs solidaires. À tarifs solidaires, c'est-à-dire 1 euro la carte SIM, 4 euros la recharge appel SMS illimité avec plusieurs gigas d'internet, 5 gigas d'internet, et pour 2 euros supplémentaires, 8 gigas supplémentaires. Bon, je vous passe sur toute l'offre, c'est pas le plus intéressant, mais en gros, de la connexion à tarif solidaire. Et derrière, on a investi les autres champs de l'inclusion numérique, parce que l'inclusion numérique, c'est 3 leviers. C'est connecter, équiper, accompagner, qui correspondent aussi aux 3 facteurs d'exclusion numérique, mais on y reviendra après, je pense qu'on aura le temps de développer là-dessus. Et donc depuis, on a développé des activités qui visent à fournir de la connexion, fournir de l'équipement, donc des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, tarifs solidaires, et également des accompagnements aux usages numériques, parce que l'exclusion numérique, c'est aussi l'électronisme, le manque de compétences numériques. Et donc on s'est organisé comme ça. Aujourd'hui, on est présent dans 18 territoires d'action dans toute la France. On a une bonne dizaine de lieux d'accueil où on accueille du public physiquement, et les autres territoires, c'est les territoires où on a des équipes en itinérance. Et on a accompagné depuis 2013 plus de 175 000 personnes en lien avec près de 4500 structures de l'action sociale qui nous orientent du public. Et à Grenoble, on est implanté depuis 2013, Jardin-Auche. Enfin, on n'est pas depuis 2013 à Jardin-Auche, mais on est actuellement à Jardin-Auche et on accompagne à peu près 2000 personnes par an dans cet espace. Voilà. Et autour, parce qu'on se projette aussi.
Pour continuer, est-ce que tu peux un peu nous dire ce qu'est l'exclusion du numérique ?
Ouais.
Qui est-ce que ça touche ? Est-ce que c'est que des gens précaires ?
Alors, l'exclusion numérique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas juste ne pas savoir utiliser son ordinateur, c'est pas juste votre grand-mère qui vous appelle tous les week-ends pour vous dire « Rémi, j'arrive pas à faire telle recherche internet, la machine elle marche pas ». Non, l'exclusion numérique, c'est presque une personne sur deux en France. On a des chiffres du baromètre du numérique qui datent du début de l'année 2022, qui nous expliquent qu'il y a 48% de la population française qui rencontre au moins un frein dans son accès à Internet. 48% de la population française, il faut se mettre un peu en tête hein, qu'en gros ça concerne une personne sur deux. Et ça concerne une personne sur deux pour plusieurs raisons. Soit parce que les personnes n'ont pas de connexion, donc là c'est à peu près 9% de la population qui a soit pas les moyens de s'acheter de la connexion, soit est dans une zone blanche. C'est principalement pour des questions de moyens. À peu près une personne sur quatre, donc à peu près 25%, c'est une problématique d'équipement. Donc des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un équipement ou qui a un équipement qui est désuet. Et à peu près une personne sur quatre aussi sur des questions de compétences. Alors sur les questions de compétences, ça va de une personne sur quatre à quatre personnes sur dix en fonction de où on met le curseur sur le manque de compétences. Mais tout ça, ça fait, si on cumule, parce qu'il y a des gens qui cumulent les freins, bah, ça fait une personne sur deux. Et donc l'exclusion numérique, c'est ça, c'est rencontrer au moins un de ces trois freins dans son accès à Internet, dans son accès au numérique. Et donc ce qu'on fait chez MusConnect, c'est qu'on combat ça. Et alors pour répondre à la deuxième partie de ta question, qui est qui est concerné par ces problématiques d'exclusion, eh ben tout le monde, mais en particulier les personnes les plus précaires. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le premier facteur d'exclusion numérique, c'est pas l'âge. Le premier facteur d'exclusion numérique, c'est le manque de moyens. C'est le facteur social. Si vous êtes en précarité sociale, il y a de grandes chances que vous finissiez en précarité numérique. Parce que vous n'avez pas les moyens de vous acheter de la connexion, vous n'avez pas les moyens de vous acheter de l'équipement. Et également parce que souvent, vous avez des niveaux de diplôme qui sont moins élevés, et donc vous êtes plus aussi susceptible de rencontrer des difficultés dans vos usages, dans la manière dont vous utilisez. Et parfois, c'est même pas qu'on ne sait pas vraiment l'utiliser. L'outil, c'est qu'on ne sait pas l'utiliser de la bonne manière. C'est-à-dire, prenons l'exemple des jeunes qui sont également beaucoup touchés. Bah, les jeunes, ils savent très bien utiliser TikTok, Insta. Par contre, dès qu'il faut avoir un usage un peu plus professionnel, un peu plus administratif du numérique, on a des langages administratifs qui viennent se superposer à des langages numériques. Et donc, bah, tout de suite, on se rend compte que les personnes ont des difficultés. On a plein de jeunes qui viennent faire des CV, qui viennent apprendre à rédiger un mail professionnel chez nous. Donc ça concerne tout le monde. Mais le premier facteur, c'est le social. Et pour terminer aussi sur l'âge, si on prend les seniors, eh ben, on se rend compte que les 50-60 ans et les 60-70 ans sont en moyenne plus connectés que les jeunes, enfin que la moyenne de la population. Et qu'en fait, le facteur âge, il devient aujourd'hui réel à partir de 70 ans. Parce que forcément, faut pas croire, hein, le numérique, ça fait un moment qu'on l'utilise dans toutes les sphères de la société, ça fait 30 ans qu'on l'utilise dans le monde professionnel. Donc faut pas s'étonner que les 50-60 ans qui ont commencé leur carrière il y a un peu plus de 30 ans, à peine, bah en fait, sache très bien utiliser les outils.
Ça veut dire quoi, être plus connecté ?
C'est-à-dire, être plus connecté.
Bah, vous ouais. avez dit, tu as dit, que les 50-60 ans
ah oui.
sont plus connectés que les jeunes.
Bah, ça veut dire que les statistiques qu'on a nous disent qu'en gros, bah, les seniors utilisent quotidiennement les outils numériques,
okay.
En moyenne plus que la moyenne de la population. Alors quand je dis en moyenne plus, c'est... équivalent, quoi, hein, c'est un point ou deux de plus. Par contre, ils sont mieux équipés. C'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui, les seniors, bah forcément, les seniors, c'est les personnes qui ont le plus de moyens dans notre société, statistiquement. Donc oui, ils sont mieux connectés. Les seniors ont plus d'ordinateurs que les jeunes.
Oui, ok. Mmh. Là, je comprends mieux. C'est, ouais. c'est fonction voilà. du nombre d'équipements, notamment.
C'est ça. Et on en revient au facteur social. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes senior, vous avez plus de moyens en moyenne. Donc en moyenne, vous êtes mieux équipés. Et la problématique de l'exclusion numérique, et ça c'est pas, enfin, c'est nous ce qu'on constate sur le terrain, mais c'est les statistiques aussi qui le montrent, hein, donc je suis pas en train de vous parler d'un ressenti, hein, je vous parle de fait. Aujourd'hui, l'exclusion numérique, c'est premièrement le facteur social. Ça veut pas dire que le facteur âge est pas important, hein, mais faut sortir, ça permet, dire ça, ça permet de sortir un petit peu de ce carcan, de se dire bah en fait l'inclusion numérique ou l'exclusion numérique dans 20 ans c'est plus un problème, quoi, parce que tous ces seniors ils seront plus là, donc en fait tout le monde sera utilisé. Sauf que non, c'est pas vrai. Donc c'est un élément hyper important à prendre en compte, que ce soit pour les acteurs publics et les acteurs privés. Quand on pense une politique publique, il faut penser à l'impact du numérique dans cette politique publique, au-delà des seniors. Quand on pense un service, quand on est un acteur privé, il faut penser aussi à ça. Voilà.
Pour en finir avec un peu les notions clés à avoir, quelle est la différence du coup avec l'électronisme ?
Ouais, alors la différence, c'est que l'inclusion numérique, ça inclut tout. La connexion, l'équipement, les compétences. Quand on parle d'électronisme, c'est un petit jeu de mots avec le terme d'illettrisme, voilà, tout à fait. Et donc là, on parle vraiment de questions de compétences. L'électronisme, c'est je ne suis pas capable d'utiliser un outil. L'électronisme, c'est 1 million de personnes en Auvergne-en-Alpes. Selon l'INSEE, c'est autant de personnes qui sont en manque d'équipement dans la région, 1 million.
Okay. Ouais. Et en termes de compétences, quelles sont les compétences à avoir pour ne pas être dans l'électronisme ?
Alors les compétences, c'est ce que nous on appelle les compétences numériques de base. C'est finalement tout ce qui est essentiel pour pouvoir vivre dans notre société actuelle sans rencontrer de freins à l'exercice de ses droits, notamment, mais pas que. Ça peut prendre plein de formes, mais vous n'êtes pas obligé de savoir utiliser les logiciels les plus techniques, de savoir coder aujourd'hui pour subsister dans notre société. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais la tendance est plutôt pas dans ce sens-là, puisqu'on voit qu'avec les IA, etc., on est plutôt dans des tendances où on va peut-être avoir besoin de moins de choses, et là on aura besoin d'autres compétences, notamment de compréhension de ce que c'est que l'IA, etc., et peut-être de questions éthiques, mais bon, je divague. Les compétences dont on va avoir besoin, c'est ça peut commencer tout simplement par savoir allumer un ordinateur, savoir taper sur un clavier, savoir déplacer un curseur avec une souris, ce qui peut paraître complètement basique et acquis de tous. Mais il faut savoir que non, c'est pas le cas. Nous, tous les jours, on a des gens qui n'ont jamais vu un ordinateur, enfin qui ont peut-être vu un ordinateur, mais qui n'ont jamais utilisé un ordinateur de leur vie, qui ne savent pas comment ça marche, à qui il faut apprendre ça. Aujourd'hui, les compétences numériques de base, c'est juste être capable de faire de taper sur une application de mobilité, une adresse, pour pouvoir suivre ensuite une carte. Voilà, que ce soit Google Maps, Maps.me, Maps, ou d'autres logiciels libres, applications libres, pardon. Donc, ça prend vraiment toutes les formes. Le numérique, il est partout dans notre société. Si vous voulez prendre un billet de train, il faut être capable d'utiliser un outil numérique aujourd'hui. Je ne parle même pas de l'accès au droit, où la plupart des démarches d'accès au droit ont été dématérialisées suite au plan d'action publique 2020, qui terminait en 2022, du premier quinquennat Macron, qui fait qu'aujourd'hui, quand bien même la défenseur des droits a dénoncé l'État dans certains de ses rapports, quand bien même le Conseil d'État a condamné l'État, aujourd'hui, bonne chance si vous voulez faire une démarche en papier. C'est pas possible. Donc en fait, répondre à ta question, c'est un peu compliqué parce que en fait, ça touche à tout, quoi. Tout est numérique aujourd'hui. Donc les compétences de base, si je dois résumer brièvement, c'est de quoi j'ai besoin pour exercer mes droits, mais aussi pour vivre sans rencontrer de frein. Voilà, pour vivre ma vie sans qu'à un moment donné, il y ait le numérique qui me dise « Désolé mon gars, t'es pas capable de faire ça, donc en fait tu vas pas pouvoir partir en vacances ou tu vas pas pouvoir t'acheter à manger. » Parce que là on en est là quand même, hein. Quand on va au supermarché, vous avez aujourd'hui des supermarchés, oui, où il n'y a plus de caissière et de caissier. Donc s'il n'y a plus de caisse avec quelqu'un d'humain, une interface humain en face de vous et que vous ne savez pas utiliser votre numérique, vous pouvez pas faire vos courses. Enfin, on en est vraiment là.
Ça allait être une question, c'est que le numérique, c'est aussi avoir un guichet quand on veut acheter un billet de train, n'importe où, maintenant on n'a plus vraiment de guichet ou quoi.
Ouais, tout à fait. Et alors, c'est une tendance globale, hein, dans le privé comme dans le public, hein, qui est à la dématérialisation, à la numérisation de tout, principalement pour des questions de rationalisation des coûts. Soyons honnêtes, hein, c'est des histoires de pépettes, tout ça. Et dans le débat public, on nous présente souvent ça comme une immense avancée, comme une révolution où, en fait, vous allez voir, on n'aura plus d'humains, vous allez pouvoir tout faire directement en ligne, ça va vous faciliter la vie, ça va être génial. Ce qui est partiellement vrai. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi, ou probablement comme toi, qui fait ses démarches d'impôts en ligne, moi j'adore ne pas avoir à faire mes démarches par papier. Je me souviens, mes parents à l'époque, quand ils faisaient les impôts, on sortait tous les papiers, etc. Ben, moi j'ai jamais eu à faire ça. J'ai toujours tout fait en ligne. Et pour la plupart de mes démarches, c'est génial. Quand vous n'êtes pas capable de faire ça, ça se transforme en parcours du combattant. Essayez de faire une démarche de RSA. Si vous ne savez pas utiliser un outil numérique. Déjà que la démarche de RSA, c'est une des démarches les plus complexes à faire aujourd'hui, principalement pour des raisons politiques. Hein. Je ne dirais pas qu'on fait la chasse aux pauvres, mais je le pense peut-être un petit peu. Une démarche de RSA, c'est 7 pages. Donc 7 pages où on vous demande tout sur votre vie et il faut la refaire tous les 3 mois. Donc quand vous ne rentrez pas dans les cases du numérique, à l'époque avec du papier, vous ne rentriez pas dans les cases, vous écriviez sur un papier, bon bah là, ma situation c'est ça, bah désolé, je ne rentre pas dans la case, et puis il y a quelqu'un en face de vous qui va vous dire, bon ben bah, monsieur machin, bon ben bah, ok, vous ne rentrez pas dans la case, vous en faites pas, moi je sais comment faire, et puis on va trouver une solution. Si vous le faites en numérique, vous ne rentrez pas dans la case, le logiciel va vous dire, désolé, vous ne pouvez pas valider. Donc ça rajoute au non-recours, à la problématique d'exercice de ses droits. Donc en fait, le numérique aujourd'hui, c'est une question de démocratie, mais vraiment de démocratie. Dans un pays où vous avez des taux de non-recours qui vont de 30 à 40%, où on fait des consultations citoyennes avec des budgets participatifs qui sont 100% en ligne, avec des inscriptions sur les listes électorales qui se font aujourd'hui principalement en ligne quand on est non inscrit ou mal inscrit, et on a vu qu'il y avait des problèmes là-dessus pendant les dernières présidentielles et législatives où ça avait fait beaucoup parler, bah faut se dire que c'est un sujet de démocratie. Aujourd'hui, le numérique, c'est pas juste un truc de geek, c'est un truc du quotidien pour tout le monde. Et voilà, est-ce qu'on peut dire qu'on est une bonne démocratie ou un état, une démocratie sociale, comme on aime à dire, qui fonctionne, quand pour exercer mes droits, je suis obligé de m'acheter un ordinateur qui, pour beaucoup de monde, est beaucoup trop cher. Aujourd'hui, un ordinateur reconditionné de qualité dont on peut faire un usage professionnel, c'est un mois de RSA.
Voilà. Ouais. Et l'État prend, enfin, est-ce que elle prend en main un peu la cause ? Est-ce qu'elle est, enfin, qu'est-ce qu'elle peut faire
Alors là, on va rentrer dans des considérations politiques. Donc, je laisserai tout à chacun faire son avis là-dessus. Le mien, c'est de dire oui, il y a des choses qui sont faites. Évidemment qu'il y a des choses qui sont faites. Suite à la crise des Gilets jaunes, notamment, il y a des dispositifs que vous connaissez, vous avez sûrement déjà entendu parler, qui s'appellent les maisons France Service, qui ont été développées. Ensuite, on a eu les conseillers numériques France Service, qui deviennent aujourd'hui les conseillers numériques, qui est un dispositif qui a duré 18 mois, puis qui a été prolongé par l'État, donc qui est subventionné. Là, il faut dire la vérité, l'État a mis la main au chéquier, hein, suite à la crise Covid, pour faire en sorte qu'il y ait des choses qui se développent. Donc oui, il y a des choses qui sont faites. Il y a des milliers de maisons France Service, il y a des conseillers numériques qui sont déployés sur tout le territoire pour faire en sorte que les personnes soient capables de faire leur démarche, d'être accompagnées dans ces dispositifs-là. Mais dans le même temps, l'État dématérialise de plus en plus. Pour ceux que ça intéresse et qui ont le temps, parce que c'est un rapport qui fait plus de 100 pages, je vous invite à aller voir le rapport de Clarédon, enfin de Clarédon et de ses services, la défenseur des droits, sur la dématérialisation des services publics en France. Emmaüs Connect y a contribué, et ce rapport, il fait un état des lieux qui est alarmant et qui est très juste sur ces problématiques. Donc oui, l'État fait des choses, est-ce qu'il fait assez? Là, on rentre aussi dans des questions de philosophie. Nous, on pense que non. Et finalement, ce qu'on fait chez Emmaüs Connect, il y a un peu un volet délégation de services publics. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous pour faire des démarches d'accès aux droits. J'ai tendance à dire que dans une démocratie sociale qui fonctionne, c'est peut-être pas le rôle des associations de faire ça. C'est peut-être quand même le rôle de l'État d'assumer le fait que l'État et des collectivités, hein, d'assumer que bah, quand, mais c'est les collectivités qui portent quand même le plus ces problématiques-là, hein. Que bah, quand je dématérialise des démarches, il va falloir que j'en assume les conséquences et que je fasse le nécessaire pour que les gens qui ne savent pas utiliser soient capables de le faire. Mais, euh, Mais en même temps, pour l'État, je pense qu'il y a aussi... on est toujours dans des questions de coûts, et puis qu'il y a des choses qui sont parfois un peu marginales. C'est-à-dire que pour certains opérateurs de services publics, comme la CAF, par exemple, on est sur des taux de dématérialisation des démarches qui excèdent les 90%. Donc parfois on se dit, bon, bah pour 8% de personnes, est-ce qu'il faut continuer de dépenser? Et ces 8%, c'est des précaires. Donc ça, c'est la manière dont peut-être dont l'État voit les choses.
C'est si voilà. Économique que ça de dématérialiser?
ça dépend comment on voit les choses. Objectivement, vous êtes l'État. On vous dit, mais alors là on sort complètement des questions d'inclusion numérique, hein, mais on vous dit, on plus besoin de personnes pour traiter les dossiers papier, plus besoin de personnes pour faire les rendez-vous, parce que vous les faites, ou tenir une hotline, parce que vous faites tout en numérique. Donc ça, c'est des salaires que vous payez pas. Oui, c'est plus économique, oui, le numérique est plus économique. Et en plus, et si vraiment on est presque un peu machiavélique, hein, on sait que ça va augmenter le non-recours. En tout cas, aujourd'hui. Peut-être que dans le futur, ce ne sera pas le cas, mais aujourd'hui, ça augmente le non-recours. Donc, c'est des prestations que vous ne versez pas. Donc, oui, il y a peut-être un peu côté économique. Maintenant, dans l'autre sens, et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit non plus la manière de penser de l'État, hein, sur ce sujet-là, hein, c'est que des personnes qui ne touchent pas leurs prestations, c'est des personnes qui sont précaires. C'est des personnes qui tombent dans la pauvreté, et des personnes qui tombent dans la pauvreté, c'est indirectement des personnes qui vont vous coûter cher en frais de santé, en frais d'hébergement, parce que c'est des gens qui peuvent finir à la rue, et donc vous êtes obligé de payer de l'hébergement d'urgence. Donc oui. Oui, si ça. Enfin, je suis pas sûr que ce soit si économique que ça, oui, en réalité.
Et la situation dans les pays en Europe, est-ce qu'elle est similaire à France au niveau de la dématérialisation et de la fracture numérique? C'est peut-être pas la même cause d'électronisme et de fracture numérique. Alors, dans les autres pays.
Très honnêtement, je suis pas un spécialiste de ce qui se fait en Europe. Maintenant, c'est une tendance qui est généralisée, hein. C'est pas du tout une tendance franco-française, hein. Emmaüs Connect, on commence un petit peu à bosser à l'international, notamment en Europe, avec d'autres associations qui bossent sur ces sujets-là. Et oui, le constat, il est généralisé à l'échelle européenne. Il y a des objectifs européens de dématérialisation. Il y a des objectifs européens aussi pour faire en sorte que les personnes acquièrent les compétences nécessaires. Maintenant, je pourrais pas te donner les raisons exactes des problématiques d'électronisme en Pologne, quoi. Je suis pas un spécialiste. Mais ce que je peux te dire, c'est que oui, la tendance, elle est européenne. Elle n'est pas uniquement franco-française.
Ouais. Okay. Et donc, comment ça s'organise? Comment ça s'organise l'accompagnement chez Emmaüs Connect?
Ouais. La manière dont on fonctionne, c'est qu'une personne qui rencontre un besoin sur des questions numériques. Alors nous, on n'accompagne que des personnes précaires. Ça, c'est important de le préciser. On n'accompagne pas le tout venant. C'est pas notre vocation. Parce qu'on fait partie du mouvement Emmaüs. Mais il y a des solutions d'inclusion numérique géniales et de médiation numérique géniales en dehors d'Emmaüs Connect qui sont accessibles à tous sur le territoire. Mais c'est juste pas nos prérogatives. Nos prérogatives, c'est les personnes précaires. Donc pour venir chez Emmaüs Connect, les personnes doivent être suivies par une structure sociale qui peut être associative, publique, qu'importe. Ces structures, on les connaît, on les a rencontrées. Pour donner un exemple, à l'échelle de Grenoble, c'est plus de 150 structures qui nous orientent du public. Donc c'est vraiment tout l'écosystème de l'action sociale. Et donc les personnes font un rendez-vous auprès de cette structure sociale qui leur donne un petit bon d'orientation. C'est un petit papier sur lequel il y a l'adresse d'Emmaüs Connect, notre numéro de téléphone. Ils les orientent vers chez nous. Une fois que les personnes arrivent chez nous, elles prennent un rendez-vous d'inscription. Et ensuite, on prend 30-45 minutes avec ces personnes pendant ce rendez-vous pour faire un diagnostic social, pour essayer de comprendre quelles sont leurs problématiques, et un diagnostic de compétences numériques, très léger, qui va durer 5 minutes. C'est un premier diagnostic, on va plus loin après. Et donc, en fonction de ça, on va orienter les personnes vers les différents services qu'on propose. On a des gens qui savent très bien utiliser des outils, qui ont juste pas de moyens, et qui ont besoin, ou très peu de moyens, et qui ont besoin de solutions de connexion, ou de solutions d'équipement. Donc les personnes vont venir chez nous acheter une fois de l'équipement ou revenir tous les mois acheter leur recharge. C'est le cas, par exemple, des publics réfugiés. public réfugié sont des très gros consommateurs de recharge chez nous. Parce que aujourd'hui, vous avez des forfaits qui ne coûtent pas cher, mais par contre, pour avoir un forfait, il faut un compte bancaire. Pour avoir un forfait, il faut une adresse. Donc si vous n'avez pas de compte bancaire, enfin pas de compte courant, pardon, et pas d'adresse, vous ne pouvez pas avoir de box, vous ne pouvez pas avoir de recharge. Enfin, pas avoir de box, pas avoir de forfait. Ouais. Donc il vous faut une alternative. Et donc aujourd'hui, on est l'alternative la moins chère sur le marché. Donc là, c'est une petite digression. Et ensuite, il y a effectivement aussi des personnes qui viennent juste pour des questions de compétences, qui ont un peu plus de moyens. Alors généralement, les personnes qu'on accompagne, en moyenne, une personne qui vient chez MusConnect à Grenoble, elle gagne 700 euros par mois.
Okay.
On a 40% des gens qui viennent chez nous qui n'ont pas de compte courant. Et 40% des gens et à peu près une personne sur deux, pardon, qui vient chez nous qui n'a pas de logement personnel. Donc il faut se rendre compte qu'on est vraiment dans la très grande précarité. La plupart des gens sont des actifs sans emploi. Par contre, on a toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire que c'est représentatif de la société, sauf les seniors, qui représentent un peu moins. Là, je parle de Grenoble. Hein. Si on prend l'échelle de la France, en gros, tu prends la pyramide des âges de la France, tu as la pyramide des âges chez MusConnect. Hein. Autant d'hommes que de femmes. Et donc, je reviens sur le rendez-vous d'inscription. Les personnes font ce rendez-vous d'inscription et on les oriente vers les différents services qu'on va proposer. Et derrière, elles y ont un accès illimité, autant qu'elles le souhaitent. Alors évidemment, pour la connexion, l'équipement, il faut dépenser un petit peu d'argent, parce que nous aussi, il faut qu'on rémunère notre modèle associatif et qu'on puisse faire en sorte de proposer ces services dans la durée. Et par contre, les usages sont systématiquement gratuits. Et donc là, il va y avoir plusieurs types d'accompagnements, soit des accompagnements individuels, où les personnes viennent avec un besoin, n'importe quoi, sur le numérique. Ça peut être... je veux faire ma démarche de RSA, ça peut être je veux prendre un billet de train, ça peut être comme ça arrive parfois et plus régulièrement que ce que vous pourriez croire, je ne sais pas connecter mon imprimante à mon ordinateur, je viens avec mon imprimante, s'il vous plaît aidez-moi à la connecter. Ou alors ça peut être des accompagnements du coup collectifs, plus longs, où là l'idée c'est vraiment d'autonomiser les personnes, de les faire partir pour certains de zéro et de les amener jusqu'à un niveau de compétence qui fait qu'elles vont être capables de vivre de façon autonome. C'est des parcours qui durent 12 à 90 heures. Et en fonction du type de public, en fonction du niveau de compétence qu'on souhaite atteindre, les contenus vont être adaptés, les durées vont être adaptées. 90 heures, on vous amène jusqu'au passage d'une certification PIX.
Ah oui.
On a des parcours qui sont dédiés au public allophone, où on va donc avoir des contenus qui sont traduits en plusieurs langues, où on fait appel à de la symbolique, à des émoticônes par exemple, pour que des gens qui ne parlent pas bien français puissent quand même comprendre. Voilà, et je précise aussi que sur tous nos accompagnements, on est dans une démarche de faire-faire, voire faire avec. Mais on ne fait jamais à la place d'eux. L'idée, c'est de se dire que les personnes doivent progresser, doivent s'autonomiser, et que donc, c'est pas je viens chez MusConnect et un bénévole le fait pour moi. Déjà parce qu'on n'aurait pas le droit sur des démarches d'accès au droit, parce qu'on n'est pas travailleurs sociaux, mais surtout parce que l'objectif, c'est de dire faut que la personne monte en compétence. Donc on vient, vous avez votre outil, ou si vous n'en avez pas, on vous en prête, et on vous montre comment faire, mais c'est vous qui faites. Voilà.
Y a-t-il des étudiants qui viennent dans AMH Connect ?
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors on a des étudiants qui viennent et pour faire du bénévolat chez nous, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui veulent donner de leur temps libre quand ils en ont et qui ne sont pas obligés de travailler à côté des études ou autre pour venir nous filer un coup de main et accompagner les personnes dans leur montée en compétences numériques, mais aussi quand ils doivent acheter des ordi, des recharges, etc. Et on a des étudiants, oui, aussi, beaucoup, qui viennent, mais pour des questions d'inclusion numérique, parce qu'ils ont des besoins. Alors les étudiants, c'est rarement ceux qui viennent sur les questions de compétences numériques, parce que généralement, quand on est étudiant, on a ce niveau de compétences-là. Hein. Par contre, c'est beaucoup d'étudiants qui viennent nous acheter des recharges et nous acheter des équipements. Aujourd'hui, pour faire ces études, sans ordinateur, compliqué quand même.
Très.
Vous avez la plupart des profs qui acceptent même plus des rendus manuscrits, donc vous êtes obligé de le taper. Alors à la fac ça va, vous avez encore des accès à des ordinateurs, mais enfin il n'y a pas tant que ça, voilà. Tu fais la moue, je pense que tu as bien raison. Donc voilà, si vous n'avez pas d'ordinateur, bonne chance.
Et tu sais à peu près la part des étudiants qui viennent?
Non, je pourrais pas te dire, honnêtement, là comme ça c'est compliqué après plusieurs centaines, ça c'est sûr. Ouais.
Et est-ce que vous pouvez mesurer l'impact des Manus Connect?
Oui, bien sûr, on est capable. Bah, déjà, on est capable de dire combien de personnes on a accompagnées. Comme je te disais, hein, l'année dernière, à Grenoble, c'est 1700 personnes. C'est en constante augmentation. Cette année, je pense qu'on va... C'est même une certitude, on va accompagner plus de 2000 personnes. Et on est tout à fait capable de... Alors, on peut te donner des statistiques de genre, de... Je l'ai fait tout à l'heure, hein, de qui a un logement, qui a une carte bancaire, quel âge les personnes ont, combien de fois elles viennent chez nous aussi. Parce que quand je te dis qu'on a accompagné 1700 personnes et 175 000 dans toute la France, c'est pas un nombre d'accompagnements, c'est un nombre de personnes uniques. Il y a des assos qui trichent un peu, qui disent on a accompagné 1 million de personnes, et en fait c'est pas qu'elles ont accompagné 1 million, c'est qu'elles ont accompagné 100 fois une personne. Et du coup, enfin, ou plutôt, enfin, tu fais des multiples quoi. Nous, quand on dit 1700 personnes accompagnées, 175 000 dans toute la France, c'est le nombre de personnes uniques. Voilà, donc c'est une personne. Mais les personnes reviennent plein de fois. Donc on a fait, en réalité, on fait beaucoup plus d'accompagnement que ça. Parce qu'on a des personnes qui reviennent tous les mois pour acheter leur recharge, et des gens qui viennent, qui font des dizaines de permanences connectées. Donc on est capable de te donner cet impact très quantitatif, et on est capable de donner de l'impact qualitatif, c'est-à-dire on est capable aujourd'hui, après une permanence connectée, c'est ces accompagnements d'une heure et demie là, dont je parlais tout à l'heure, ou après des parcours d'accompagnement, on est capable d'évaluer plus ou moins à minima la satisfaction des personnes et de plus en plus le niveau de compétence qui est atteint. Voilà, mais ça c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi, parce que déjà on nous le demande beaucoup. Quand on est financé aujourd'hui en France, quand on est une association, on a intérêt à être capable de se baquer sur la mesure d'impact, parce que c'est une demande des personnes qui nous financent, et c'est compréhensible. Mais au-delà de ça, parce que nous aussi on a envie de savoir, est-ce que ce qu'on fait est efficace? Est-ce qu'on est vraiment capable de sortir des personnes de l'électronisme avec nos accompagnements? Alors ça oui, mais pour aller plus loin, est-ce qu'on est capable de les aider à sortir de la précarité?
Voilà. Et tu as des chiffres des personnes qui sortent de la précarité? Un pourcentage?
Un pourcentage, non, ça aujourd'hui on ne serait pas capable de le dire très, très concrètement, mais notamment parce que nous on est là pour lever un frein périphérique. Oui. C'est ce qu'on appelle un frein périphérique, c'est-à-dire que quand bien même on aide quelqu'un à sortir de l'électronisme, si la personne n'a pas les moyens de se payer à manger, la personne n'aura toujours pas les moyens de se payer à manger. Ça l'aidera peut-être à trouver un emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des parcours en lien avec France Travail, anciennement Pôle Emploi, et on a plein de gens à qui on a fourni un ordinateur, qui ont suivi 50 heures d'accompagnement, qui nous disent bah, « j'ai retrouvé un travail grâce à vous ». Oui. Ça, c'est génial. De se dire des personnes qui parfois ont fait 40 ans dans un métier manuel, qui n'ont jamais eu à utiliser un ordinateur, qui se retrouve licencié au bord de la retraite, qui sont obligés de travailler encore et qui nous disent bon, voilà, grâce à vous j'ai appris à utiliser les outils et aujourd'hui je suis capable de me reconvertir. Donc ça c'est génial, évidemment.
Ouais, c'est très concret. Je te propose une petite pause musicale.
Ça marche.
On va écouter une musique qui vient de la radio Emma RTV à Séville.
Estaba aquí pensando en cómo la cama que antes era grande ahora es más pequeña. Estaba aquí pensando en cómo quedarse hasta tarde era divertido, ahora es insomnio. Es mejor así, dejarlo así. Cosas de la edad, todo va a mejorar. Es mejor así, dejarlo así. Son cosas de la edad, todo va a mejorar.
continuer notre petite émission qui est très intéressante sur l'électronisme. Et je voulais parler un peu de l'impact environnemental.
Ouais, du numérique.
Ouais. Est-ce que tu as des données à nous transmettre ?
Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, l'impact environnemental du numérique, aujourd'hui, il est difficile à mesurer parce que c'est présent partout et que souvent, on oublie une grande partie de cet impact, on pense direct, indirect. Ce qu'il faut avoir en tête, déjà, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le numérique, c'est pas un espèce de truc qui flotte dans l'air, qui a pas d'impact. Hein. Le numérique, c'est des câbles. Le numérique, c'est des data centers, c'est des câbles qui passent sous la mer, des milliers de kilomètres de câbles qui passent sous la mer et qui font que vous êtes capable de vous connecter à Los Angeles, à Lagos, enfin voilà, depuis Paris ou depuis Grenoble pour le coup. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que beaucoup de gens se disent bon, ça passe par des satellites, machin. Non, que dalle, des câbles. Donc déjà, là, il y a un impact environnemental, il faut se dire, ne serait-ce que sur le dur, ce qui est palpable. Et ensuite, vous avez les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux data centers, qui sont liées aux emails, etc. Ce qui est intéressant, donc, et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, on estime que le numérique, c'est à peu près autant que l'aviation mondiale, voire plus. Et d'ici à 2030, il y a des estimations qui disent que ce sera bientôt 7%. Donc aujourd'hui, l'aviation, c'est 2-2,5%. Grosso modo, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas un expert. Et le numérique, c'est entre 2 et 3%. En fonction de ce qui se dit, hein, qui dit que c'est déjà 4%. Et d'ici à 2030, on estime que ce sera 7% des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que le numérique, c'est très
énorme.
Voilà, c'est énorme. C'est pas rien, c'est énorme. Et ce qui est très intéressant, c'est que 80% de l'impact environnemental du numérique, c'est la phase de fabrication des terminaux. Donc quand on vous dit nettoyez vos mails, comme ça, vous n'aurez pas d'impact environnemental. Oui, effectivement, nettoyer vos mails, c'est hyper important de ne pas trop stocker parce que les data centers, c'est très énergivore. Mais en réalité, si vous effacez tous vos mails tout le temps, mais que vous changez de PC tous les 2 ans et que vous changez de smartphone tous les 6 mois, ça ne sert à que dalle. Hein.
Oui.
Vous allez quand même...
La balance,
avoir... voilà. C'est ça. Pour un ordinateur de 2 kg, c'est 800 kg de matière première. Voilà. Donc voilà, l'impact environnemental du numérique, il est réel. Et donc... si vous voulez réduire la problématique de l'impact environnemental du numérique, d'ailleurs, je vous invite à lire un bouquin qui est génial, L'Enfer numérique, de Guillaume Pitron, qui est un journaliste qui a travaillé là-dessus, qui a écrit un super bouquin sur l'impact environnemental du numérique, où il s'amuse à suivre le parcours d'un like et l'impact que ça a, c'est assez effrayant. Et bien, donc tout ça pour dire que pour réduire l'impact environnemental du numérique, il faut prolonger la durée de vie des équipements. Et donc, prolonger la durée de vie des smartphones, prolonger la durée de vie des tablettes, des ordinateurs portables et acheter reconditionné. Voilà. Ça, c'est pareil, hein, comme dans tous les secteurs. Hein. Aujourd'hui, de plus en plus, on va s'habiller dans des friperies parce que l'impact environnemental est plus faible que d'acheter des nouveaux vêtements. Bah, c'est pareil pour le numérique.
C'est économique.
En plus, c'est économique. Alors oui, tout à fait. Et on va y venir aussi par rapport à ce que nous, on fait. Parce qu'on a développé depuis la crise Covid, suite à un programme qui s'appelait Connexion d'urgence, où on a dû équiper et connecter des milliers de personnes dans toute la France, un projet, ou plutôt plus qu'un projet en réalité, un réseau, qui s'appelle lacollecte.tech. Donc lacollecte.tech, c'est un réseau de reconditionnement qu'on a créé avec des structures d'insertion partenaires pour faire en sorte que les équipements professionnels qui sortent des entreprises et des collectivités, plutôt que d'être revendus à ce qu'on appelle des brokers, qui sont des entreprises qui vont racheter à 4-5 euros la machine, qui sortent des parcs et qui derrière vont les envoyer en Chine, soit pour reconditionnement, soit pour traitement, pour ensuite leur vendre sur les marchés européens, plutôt que de vendre à ces structures-là, on donne à des structures vertueuses du territoire, donc à la collecte.tech, qu'on reconditionne ensuite dans des structures d'insertion toujours du territoire, donc dans la région où on travaille par exemple avec Tri-Rhône-Alpes, qui est située à Pont-Évêque, dans le nord de l'Isère. Ah. On travaille avec Ulysse, 38, qui est très implanté à Grenoble. Oui, je te vois sourire parce que je crois que t'es de Vienne, c'est ça ?
Je viens vraiment d'à côté de Pont-Évêque, voilà. Oui.
Donc Trira, qui est à Pont-Évêque. Et donc, ces structures reconditionnent les équipements informatiques, nous facturent évidemment la prestation de reconditionnement, et nous, derrière, on peut le revendre à tarif solidaire, parce que des structures d'insertion, bah, coûtent moins cher, notamment parce que subventionnées par l'État, mais, et derrière, donc, on les revend à tarif très très solidaire dans nos espaces de solidarité numérique, mais également dans des structures associatives partenaires qu'on appelle des relais numériques. Et donc, aujourd'hui, ça nous permet de vendre entre 70 et 150 euros un ordinateur reconditionné qui vient d'une entreprise, qui marche nickel, qui est en super état, mais qui du coup est accessible à des personnes en situation de précarité. Alors l'idée, c'est évidemment pas de dire filer le reconditionné usagé un peu pourri aux pauvres et puis vous allez vous acheter du neuf, mais plutôt de dire, regardez, il faut que tout le monde achète du reconditionné si on veut, il faudra toujours du neuf, hein, mais il faut que tout le monde achète du reconditionné si on veut s'en sortir sur le plan écologique. Et ben, on peut montrer l'exemple aussi en partant des plus précaires, et en plus de ça, on réduit la fracture numérique et on résout une problématique d'exclusion. Voilà. L'État, tout à l'heure tu me demandais si l'État fait assez, ben, l'État pour le coup a fait un super truc récemment suite au Conseil National de la Refondation. Et ben, ils ont lancé une feuille de route qui s'appelle France Numérique Ensemble, dans laquelle a été intégré l'objectif d'équipement de 2 millions de ménages précaires d'ici à 2027. Voilà, ça fait 200 000 en Auvergne-Rhône-Alpes. La collecte Pointech en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis son lancement, c'est 2000 équipements distribués. Dans toute la France, c'est à peu près 35 000 équipements distribués, de mémoire, ou collectés, enfin bref, dans ces eaux-là, quoi, hein, plusieurs dizaines de milliers. Donc, tu fais le calcul, 2000 équipements distribués en l'espace d'un an et demi en Auvergne-Rhône-Alpes, il faut en distribuer 200 000. À ce rythme-là, il nous faut 150 ans. Donc, j'en profite d'être sur votre radio pour dire aux entreprises et aux collectivités, nous avons les moyens aujourd'hui de reconditionner et de collecter des dizaines de milliers d'équipements dans la région. Il faut que vous nous donniez. Plutôt que de vendre à ce qu'on appelle des brokers, où vous allez gratter 5 balles par PC sur parfois des entreprises qui pèsent des milliards, hein, qui n'ont pas besoin de ces 5 euros. Donnez à des structures, à des collectifs comme la collecte Pointech, qui derrière vont faire travailler des entreprises du territoire avec des emplois non délocalisables parce que c'est des emplois d'insertion et distribuer à ceux qui en ont le plus besoin, à des personnes en situation de précarité, et ensemble on arrivera à résoudre cette problématique d'exclusion numérique, voilà, et cette problématique d'équipement des ménages précaires. Voilà.
C'est quoi que t'appelles les brokers ?
Bah, les brokers, c'est ces entreprises dont je te parlais, hein, des entreprises que je ne citerai pas pour ne pas les mettre en difficulté, pour pas me faire des ennemis, mais vous avez des...
Okay.
Et après, il y a brokers et brokers. Vous avez des brokers qui rachètent des équipements sur le territoire, qui reconditionnent sur le territoire et qui redistribuent sur le territoire. Et il faut, à un moment donné, du reconditionné qui aille à tout le monde. Hein. Mais la plupart des choses que vous achetez sur Back Market, Back Market, c'est une place de marché, hein. C'est pas eux les fautifs, oui. Hein. Pas du tout. Tout le monde peut vendre sur Back Market, vous avez des trucs très très vertueux sur Back Market. Mais la plupart des choses qui y sont, ben, c'est des entreprises qui collectent, parfois se font passer pour des acteurs de l'ESS et de l'économie sociale et solidaire, et puis vous disent on va reconditionner sur le territoire, et puis en fait, ça part en Chine, c'est reconditionné là-bas, ça revient ici, impact environnemental dégueulasse, mais on vous a dit que c'était du reconditionné, qu'il n'y avait pas de problème. Voilà, sauf qu'en attendant, votre ordi, il a fait 3 fois le tour du monde, et puis en termes d'impact environnemental... pas ouf, quoi.
Ouais. Oui, ok, l'idée, ouais, je comprends mieux, là.
Voilà. Donc, donner à des entreprises locales, c'est ça qui est hyper important. Si vous donnez à la collecte Pointech, c'est encore mieux, parce que vous êtes doublement gagnant. Vous allez équiper des ménages précaires en passant par nous. Et en plus de ça, vous allez faire travailler les entreprises locales, parce que c'est pas Emmaüs Connect qui reconditionne, c'est les acteurs du reconditionnement locaux, c'est Ecoder, c'est Tri-Rhône-Alpes, pour ceux avec qui on travaille dans la région, c'est Accès Emploi, c'est Activitei, petite entreprise de l'Ardèche, voilà, entreprise à but d'emploi. Donc voilà, des dispositifs très vertueux qui créent de l'emploi, qui eux-mêmes ont un impact social et économique, et derrière, un double impact social parce que vous équipez des personnes précaires. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et pour faire un peu de publicité sur ce qu'on va faire prochainement, et peut-être que tu allais y venir,
ouais.
Grâce à ce dispositif, on va équiper 200 jeunes de d'Isère et plus particulièrement de Grenoble, dont 100 étudiants de l'UGA, qui vont être équipés gratuitement grâce à la collecte Pointec. Alors, c'est des équipements qu'on a collectés auprès d'entreprises du territoire, qu'on a fait reconditionner chez Tri-Rhône-Alpes en l'occurrence. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé toquer à la porte d'entreprises et de collectivités. On leur a dit, écoutez, ces équipements, soit on peut les vendre à 150 euros pièce, soit vous vous engagez à payer ces équipements en versant une subvention à MS Connect, et du coup, on va pouvoir les donner gratuitement. Donc, on est allé voir la Fondation HP, qui est en partenariat avec un fonds de dotation Sésame, qui a été lancé récemment, qui réunit un collectif d'entreprises du territoire, et ils nous ont dit, bah, super idée. Super idée. Voilà l'argent. On vous paye l'équivalent de ce que vous auriez vendu ces ordinateurs. Et derrière, bah, vous pouvez les distribuer gratuitement à des personnes en situation de précarité. Donc il y a 100 étudiants boursiers principalement qui vont bénéficier de ces ordinateurs cette semaine, jeudi. On va faire une grande distribution. Et deux semaines plus tard, ce sera 100 jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui pour le coup viendront de tout le département de l'Isère.
Et elle se fait comment cette sélection pour cette distribution? Parce que j'imagine qu'il y a sûrement plus de 100 jeunes qui... Enfin, c'est incroyable déjà, mais comment se fait cette sélection?
On est d'accord. Bah, cette sélection, elle se fait avec les services de la vie étudiante qui travaillent avec les étudiants qui ont fait la sélection eux-mêmes. Alors oui, parfois, c'est un petit peu injuste. J'ai plus les critères exacts en tête, mais c'est des critères sociaux, des personnes précaires. Normalement, si vous êtes éligible, vous avez déjà été contacté par l'université. Et puis après, parfois, il faut un peu ouvrir. C'est un petit peu premier arrivé, premier servi, malheureusement. Et je le redis. Oui, je le redis parce que je l'ai déjà dit, mais les personnes qui ont des besoins peuvent venir s'équiper chez MS Connect. On a des ordinateurs qui conviennent très bien pour des étudiants en fonction de ce que vous faites, entre 110 et 150 euros. Et on espère que l'université souhaitera renouveler l'opération dans le futur. Alors, il faudra trouver des moyens de se financer. Mais nous, notre ambition, c'est de refaire ça tous les ans. Après, l'université propose un dispositif de prêt d'ordinateurs aujourd'hui. Donc, vous avez une université qui est quand même engagée sur le sujet. Et c'est des ordinateurs qui, si je ne dis pas de bêtises, iront à des étudiants qui sont éligibles à ce dispositif, qui devront rendre du coup leur ordinateur de prêt. Donc ça veut dire qu'il y aura des ordinateurs en prêt qui pourront être ouverts à plus de gens aussi. Mmh. Voilà.
Ouais, c'est super bien. Je pense que l'émission, elle touche à sa fin, et je voulais savoir un peu qui d'autre d'autre peut aider MS Connect. Il y a eu les étudiants, tu as dit les entreprises qui donnent. Il y a d'autres moyens d'aider MS Connect.
Il y a d'autres moyens d'aider MS Connect, tout à fait. Alors, il y a effectivement les entreprises qui peuvent nous faire du mécénat financier, donc nous donner de l'argent. Il y a des entreprises. Principalement, le meilleur moyen pour les entreprises de nous aider, c'est de nous donner leurs équipements. De dire, là, moi, j'ai 500 machines qui sortent tous les ans de mon parc informatique. Ben, je vais les donner à MS Connect, qui va les reconditionner et qui va les redistribuer. Alors, je dis 500 machines, mais il y a des PME du territoire qui sont nos principaux donateurs, hein, qui nous donnent moins, mais qui nous donnent ce qu'ils peuvent. Donc nous, on prend tout ce que vous pouvez nous donner. Un ordinateur, c'est une personne qui potentiellement retrouve un emploi. Un ordinateur, c'est une personne qui va pouvoir suivre ses études. Un ordinateur, c'est juste quelqu'un qui va pouvoir se reconnecter à la société parce qu'elle n'avait pas les moyens de se payer un ordinateur. Donc c'est hyper important, le moindre ordinateur donné est important. Ça, c'est le premier point. Et je précise que je m'adresse principalement aux entreprises. Les particuliers aujourd'hui, malheureusement, on ne prend pas ou très peu les ordinateurs. On commence à les prendre à Paris. On espère expérimenter ça dans le futur à Grenoble. Mais aujourd'hui, il y a des problématiques de taux de réemploi. Donc, taux de réemploi, c'est combien d'ordinateurs vous reconditionnez pour 100 ordinateurs collectés. Aujourd'hui, on est sur des taux de réemploi qui sont de 70% à peu près sur de l'ordinateur professionnel. On tombe à 40% pour des ordinateurs de particuliers parce que les particuliers changent moins, poussent les ordinateurs jusqu'au bout. Donc, c'est un peu plus complexe. Mais si vous êtes une entreprise, vous pouvez nous donner des équipements, vous pouvez nous donner aussi de l'argent sur un modèle de projet ou juste sur un modèle de don. Il y a des entreprises qui juste nous donnent comme ça, ce qui nous permet aussi de faire des choses de façon plus posée, en réfléchissant plus à l'impact global qu'on peut avoir, et on saura très bien où mettre l'argent, vous en faites pas. Donc ça, c'est pour les entreprises. Il faut dire aussi que les collectivités peuvent nous donner. Les collectivités, jusqu'à présent, elles devaient passer par des marchés pour traiter les ordinateurs qui sortent de leur parc. Depuis peu, et je suis assez fier de dire qu'MS Connect a contribué à ce changement législatif, elles peuvent donner à des associations qui luttent pour l'inclusion numérique des plus précaires. Tant qu'on ne revend pas plus cher qu'un certain tarif, c'est plus ou moins les tarifs d'Emmaüs Connect. Enfin, c'est un peu plus élevé, mais du coup, tout ça pour dire que nous, on aurait le droit de les revendre. On pourrait aussi les distribuer gratuitement si la collectivité finançait l'opération. Donc les collectivités peuvent nous donner leurs équipements. Les collectivités nous financent aussi, il faut le dire. Heureusement que les collectivités sont là parce qu'elles nous financent beaucoup, notamment la ville de Grenoble, la métropole, l'État. Enfin, c'est pas une collectivité, l'État, mais l'État nous finance. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est des personnes, bah, vous pouvez nous aider, pas nécessairement en mettant la main en porte-monnaie. Aujourd'hui, dans le mouvement Emmaüs, les appels aux dons, c'est réservé à la Fondation Abbé Pierre, donc nous, on ne fait pas ce type de choses. Par contre, ben, vous pouvez venir donner de votre temps. Chez Emmaüs Connect, dans la région, c'est 300 bénévoles. À Grenoble, c'est plus de 100 bénévoles, donc des personnes qui viennent et qui donnent même 2 heures par semaine pour accompagner des personnes. Et vous n'avez même pas besoin d'être nécessairement en pleine maîtrise des outils numériques, c'est-à-dire qu'on a des gens, on a des personnes qui étaient bénéficiaires de nos accompagnements, qui aujourd'hui sont bénévoles. Oui. Donc vous pouvez venir soit pour donner de votre temps à accompagner n'importe qui pendant 1h30 sur une permanence connectée. Si vous êtes encore plus motivé, vous pouvez venir aider à faire des accompagnements plus longs avec des salariés. Vous n'êtes jamais tout seul, hein. On a des salariés qui sont qui savent faire ça. Vous n'êtes jamais tout seul en parcours. En permanence connectée, vous êtes une personne pour une personne accompagnée, un aidant pour un aidé. Et puis vous pouvez donner de votre temps à l'accueil d'Emmaüs Connect et juste prendre le temps d'accompagner les personnes, de répondre à leurs questions, à leurs besoins, parce que ce qu'on fait chez Emmaüs Connect, c'est de l'inclusion numérique, mais c'est aussi pour beaucoup des questions de lien social. Vu qu'on accompagne des personnes précaires, on accompagne aussi beaucoup de personnes isolées. Et donc on a des gens qui viennent pas nécessairement pour des questions de compétences numériques, mais juste parce qu'elles ont besoin de passer 1h30 avec quelqu'un qui parle avec elles, qui les aide, qui les rassure. Donc ça, c'est hyper important. Donc venez donner de votre temps, du bénévolat. Donc pour résumer, des ordinateurs, de l'argent évidemment, mais surtout du bénévolat.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Victor.
Merci à vous, c'était très plaisant.
Eh ben, je vous laisse. Merci à toutes et à tous et à une prochaine.
Au revoir.
L'apérophonie! Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie!
C'est quoi?
L'apérophonie!
Quoi?
Sur Campus Grenoble!
Sur quoi?
Sur le 90.8!
Ah, sur Campus Grenoble 90.8!
Oui!